Le point sur l'actualité par Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une décision historique. En Inde, la Cour suprême vient de dépénaliser l'homosexualité dans la deuxième nation la plus peuplée de la planète. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
La plus haute instance judiciaire indienne a donc finalement jugé illégal un article de loi remontant au 19e siècle.
Et c'est une décision historique, vous le disiez, à proprement parler, puisque l'article 377 du Code pénal indien, qui a donc été abrogé, jugé inconstitutionnel par les 5 juges suprême datait de 1861 du code colonial britannique. Il basait la criminalisation, je cite, sur des relations charnelles contre nature avec un homme, une femme ou un animal, sur la notion d'ordre naturel, notion qui a été longuement débattue par la Cour suprême depuis le mois de juillet et qui méritait bien une petite actualisation tant la société indienne a évolué sur la question de l'homosexualité en près de 160 ans. Il s'agissait, avaient reconnu les juges, d'en finir avec la stigmatisation et les discriminations que subissaient les LGBT en Inde. L'article 377 les rendait passibles, il faut bien le dire, de la prison à vie. La loi indienne poursuit donc sa modernisation entamée ces dernières années avec notamment la reconnaissance d'un troisième genre pour les transsexuels. Les partisans de cette dépénalisation de l'homosexualité avaient argumenté que la loi était hypocrite. Elle reconnaissait en théorie la liberté d'orientation sexuelle mais interdisait de facto de choisir librement son partenaire. Cette mobilisation qui a donné lieu à de très nombreuses manifestations pour mettre la pression sur la Cour suprême aboutit donc aujourd'hui à une victoire, une explosion de joie dans ces manifestations qui sont menées très largement, il faut le dire, par des femmes. Explosion de joie aujourd'hui dans les rues de la capitale indienne.
Camille Magnard, merci pour ces explications. Pour la première fois depuis 2 ans, ils doivent se retrouver dans un même bâtiment. Les deux camps yéménites ennemis sont attendus à Genève pour des discussions de paix sous l'égide de l'ONU, mais la délégation des rebelles houthis yéménites est bloquée dans la capitale Sanaa. L'émissaire de l'ONU a décidé de ne pas mener de consultation donc aujourd'hui dans l'enceinte onusienne où les discussions pourraient finalement débuter demain. Des pourparlers entre les deux parties du conflit, le gouvernement du président Mansour Hadi, appuyé par la coalition de pays du Golfe emmenée par l'Arabie Saoudite d'un côté et de l'autre les rebelles houthis soutenus eux par l'Iran. La guerre au Yémen qui dure depuis près de 4 ans désormais et qui a de lourdes conséquences pour la population yéménite. 20 millions de civils ont besoin d'une aide humanitaire. En colère et presque fébrile, Donald Trump demande au New York Times de dénoncer immédiatement le lâche qui signe une tribune contre lui dans le quotidien. Une tribune anonyme, hors du commun, d'un haut responsable de l'administration Trump. Ce haut responsable qui dit s'efforcer avec d'autres conseillers de lutter de l'intérieur de la Maison Blanche contre les pires penchants du président des États-Unis. Un homme décrit comme amoral, instable, mesquin, à la politique inefficace. Notre principal souci, ce n'est pas ce que Donald Trump a fait à la présidence, mais ce que nous, en tant que nation, nous lui avons permis de nous faire, écrit ce haut responsable. À 2 mois des élections de mi-mandat, Donald Trump demande à ce que ce lâche soit livré aux autorités au nom, je cite, de la sécurité nationale. Corée du Sud et du Nord se retrouveront du 18 au 20 septembre prochain pour un troisième sommet. Il s'agit une fois de plus de parler de la dénucléarisation de la péninsule. C'est le plus gros porte-conteneur battant pavillon français. Le Saint-Exupéry, navire de 400 mètres de long, 60 de large, sera inauguré ce matin au Havre en présence des ministres Elisabeth Borne et Bruno Le Maire. Une présence qui sera sans doute remarquée une semaine après les propos tenus par Nicolas Hulot sur ces porte-conteneurs extrêmement polluants, des cadeaux empoisonnés pour la planète selon l'ex-ministre Maxime Debs.
Nicolas Hulot a beau dire ce qu'il a dit, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire avaient prévu de venir de toute façon, présence qu'il justifie par le rôle central du transport maritime dans l'économie mondiale. 90% des produits du quotidien transitent par la mer, de quoi pousser les armateurs à toujours voir plus grand, parfois jusqu'à en perdre le sens des réalités. Olaf Merck, qui est spécialiste du transport maritime à l'OCDE.
C'est à la fois magnifique, mais aussi un peu maléfique finalement. Ces navires, ils polluent et les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur maritime en total. C'est la même grandeur qu'un pays comme la Corée.
Autre comparaison, celui de France Nature Environnement pour qui un cargo pollue autant que 50 millions de voitures. Celui inauguré aujourd'hui a été conçu pour consommer le moins d'énergie possible, mais du chemin reste à faire.
C'est ça l'enjeu. Est-ce que c'est possible de faire beaucoup plus propre? Bon, on fait des petits pas. Mais finalement, le défi, c'est de faire des pas beaucoup plus importants. avant de réfléchir à des carburants alternatifs, etc., qui doivent mener à une réduction des émissions beaucoup plus importantes.
Sur ce sujet, l'Organisation Maritime Internationale s'est fixé l'objectif de réduire les émissions de CO2 du secteur d'au moins 50% d'ici 30 ans, dans un monde où les échanges vont encore s'intensifier. Tout ça n'ira pas sans une volonté politique au moins aussi grande que ces nouveaux géants des mers.
Il reste un peu plus de 3000 bacheliers sans affectation inscrits sur Parcoursup. Parcoursup, la plateforme d'entrée dans les études supérieures. 3000 bacheliers donc non affectés. C'est ce qu'a indiqué ce matin la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, alors que s'est achevée la phase principale de la procédure la nuit dernière. Le temps de ce jeudi 6 septembre, partagé entre nuages, éclaircies et averses, les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 19 et 24 degrés sur une grande partie de l'Hexagone, jusqu'à 27 en Alsace et jusqu'à 29 près de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi, avec Thomas Cluzel.